tout de suite, c'est l'heure de votre chronique Conte et raconte avec Annette.
Annette, Conte et raconte. Exceptionnel ! Car aujourd'hui, j'ai un invité. Ouais, un invité de marque. Je reçois Monsieur Robert Millet, mon auteur préféré. Oui, si, mon auteur préféré. Bonjour Robert.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et on est accompagné de Théo.
Et bonjour.
Et bonjour Théo.
Bonjour Théo.
Mon invité de marque. Oh, je le voulais, ce monsieur, depuis bien longtemps. Robert, avant de parler de mon auteur préféré, bon, on va parler de Robert. Qui es-tu, Robert ?
Alors, je suis Robert, ben déjà, un Robert Millet, natif d'Albi, dans cette belle ville épiscopale.
Oui.
Je suis né là-bas, il y a presque 70 ans, même oui. Il y a même 70 ans. Voilà, une ville qui m'a accueilli, bien sûr, mes parents étaient là-bas, j'ai pu faire mes études là-bas. Et puis ensuite, la vie a fait que je me suis retrouvé dans le Vaucluse parce que j'ai passé le concours de l'école normale dans cette belle ville d'Avignon et j'ai été rattaché à ce beau département quand ensuite il a fallu que je commence ma carrière.
Exactement. Et l'école normale à cette époque-là, parce que maintenant ce n'est plus tout à fait le cas.
Alors c'est ça, l'école normale est devenue par la suite un IFM et ensuite le cursus a été modifié. Mais bon, je vous avouerai que je regrette un petit peu ces écoles normales quand même, qui étaient un bon centre de formation des enseignants, des instituteurs.
Alors, il a une particularité, M. Robert Millet, c'est qu'il a fait son parcours d'instituteur, mais à travers le monde.
C'est exact, puisqu'à la sortie donc, de l'école normale, j'ai été rattaché une année à Orange, où j'ai exercé les fonctions d'instituteur. Mais ensuite, la vie a fait que je me suis retrouvé à l'étranger. Je vous avouerai que je ne voulais pas trop faire l'armée. Alors, j'ai été volontaire pour le service national actif, ça s'appelait comme ça autrefois, un petit peu l'équivalent du service civique maintenant. Et voilà, cette expérience au Nigeria m'a plu et nous a plu, puisqu'entre-temps, j'ai épousé Françoise, rencontrée dans cette belle agence matrimoniale, finalement, qui était l'école normale.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, donc cette expérience au Nigeria, donc, comme je viens de le dire, nous a plu. Et on a continué ensuite à l'étranger, au Maroc, etc. Bon, mais là, si je dois énumérer tous les pays, ce serait un peu long, mais entre autres Madagascar, l'Arabie, le Turkménistan, la Hollande, la Chine, le Congo, et j'en passe.
Ouais, d'ailleurs, petite anecdote, Guillaume parle parfaitement avec Yann, arrive à avoir des discours avec Yann.
Tout à fait, puisque nos enfants sont nés bien évidemment à l'étranger, au Maroc, donc ils ont parlé un petit peu arabe. Ça c'était l'amazir, puisque c'était la langue qui était parlée donc là au Maroc. Et ensuite, aux Pays-Bas, Guillaume et notre fille Elodie, se sont retrouvés confrontés bien sûr à des copains néerlandais et ont appris la langue à l'école dans un premier temps et puis à la rue dans un deuxième et parle parfaitement néerlandais. D'ailleurs, de temps en temps, on peut le prendre pour un néerlandais. Et là aussi, petite anecdote, c'est le fait que de se retrouver à l'étranger, finalement, chaque fois qu'on passait dans un pays, on essayait d'apprendre la langue. Et ça fait que Guillaume est parfaitement est trilingue, espagnol, anglais, néerlandais, le français, bien évidemment, ce qui est une richesse.
Richesse pour ce qu'il fait en plus, pour le métier qu'il fait. Exactement. Oui. Et pour le métier qu'il fait.
Puisqu'il est dans le tourisme, oui.
Oui, exactement. Et après, vous êtes revenu en France et vous avez été directeur.
Exactement. À deux reprises, donc on s'est retrouvé en France. D'abord à Pernes, où j'ai exercé donc les fonctions d'abord d'instituteur en 1990 à 93, et ensuite nouveau retour en France de 99 à 2002, là où j'ai exercé les fonctions de directeur de l'école maternelle Louis Giraud et de l'école primaire de Saint-Didier.
De Saint-Didier, voilà. Alors, M. Robert Millet a des hobbies extraordinaires, il faut le dire aussi. Cet homme est un amoureux de la petite reine.
Voilà, hein? Exactement. Tu parles de Françoise, là, je suppose.
Oui,
voilà,
oui. De la petite reine Françoise et de la petite reine vélo.
C'est vrai que le vélo est une de mes passions. La course à pied, dans un premier temps, et puis, bon, bien, disons que les genoux fléchissant un peu, c'est vrai que je suis passé à ce sport porté qu'est le vélo, et j'avoue que c'est devenu une vraie passion.
Oui, alors c'est même plus qu'une passion, parce qu'il faut quand même savoir qu'avec sa charmante et tendre petite reine, il est parti, il n'y a pas longtemps, faire un sacré périple en faisant du camping.
Voilà, c'est tout à fait. Nous avons donc à vélo, en autonomie, traversé la Corse, puis la Sardaigne, puis nous sommes passés de Cagliari, nous sommes passés à Palerme, on a fait le tour de la Sicile. Ensuite, on a pris le bateau pour retourner à Gênes, et de Gênes, nous sommes rentrés à La Roque-sur-Perde. Un périple de 2700 km.
Et tout ça en vélo et en faisant du camping.
Et tout ça, exactement.
Il y a une petite anecdote, moi, je tenais à dire, c'est qu'il a monté l'Etna en vélo. Et que quand il est arrivé en haut, en fin de compte, tous les touristes qui étaient là, ils ont pris des photos, pas de l'Etna, mais de Robert et de Françoise qui étaient en vélo.
Oui, c'est parce que c'est vrai, la température était très très froide. Il avait neigé 3-4 jours avant. Oui, c'est vrai. C'était assez surprenant, je reconnais.
Et comme c'est un homme fort sympathique, Robert fait partie d'une association de vélo.
Voilà, oui, c'est Cyclotandem Vaucluse, association qui permet à des déficients visuels et des aveugles même, puisqu'il y en a qui sont plus, malheureusement plus que déficients visuels, ça leur permet de faire du vélo. Nous sommes pilotes de tandem. Et là, il y a deux fois par mois des sorties qui sont organisées pour eux. Et voilà, cette association m'a permis déjà de leur apporter cette aide, mais surtout de trouver un groupe d'amis, finalement.
Voilà. Bon, et bien maintenant, on va parler du cœur de mon émission. On va parler de Robert, mon auteur préféré. Hein? Robert, comment est venue cette envie d'écrire sur papier tous ces souvenirs? Comment c'est venu?
Il faut dire que l'écriture a toujours été quelque chose qui m'a attiré très, très jeune. J'aimais écrire, mais bon, je n'avais jamais franchi le cap. Donc, pour écrire un roman, voire un roman édité. Mais il se trouve que suite à une tendinite, ça semble incroyable. Bon, donc Annette vient de préciser que j'aimais le sport, je courais beaucoup à pied. Une tendinite m'a bloqué, alors que j'exerçais à l'époque les fonctions de proviseur du lycée français de Lubumbashi en République démocratique du Congo. J'avais du travail, mais ça m'a libéré, cette tendinite m'a libéré beaucoup de temps. Et c'est là que je me suis lancé. J'ai eu le temps et je me suis lancé dans un roman qui me tenait à cœur puisqu'il parle d'adoption et dans ma famille. Donc, il y a ma belle-sœur, pour le préciser. Ma belle-sœur a 3 enfants adoptés, 2 petits Rwandais et une petite Haïtienne. Et le petit Rwandais, qui s'appelle, dans mon livre, Jean-Michel, va avoir envie de retrouver ses parents biologiques. Quand je dis envie, ça a été vraiment un besoin, puisqu'il a entendu un mot pendant le Festival d'Avignon, Akasuba. Akasuba, ce mot, ça veut dire soleil en langue bantou. Il entend ce mot en plein festival, et là, va résonner en lui beaucoup de choses, et en particulier cette envie de retourner en Afrique pour retrouver ses parents biologiques. Une quête existentiel, finalement, va se présenter. Retrouvera-t-il ses parents biologiques? Si oui, il pourra se passer, bien sûr, beaucoup de choses avec les parents biologiques, etc. Voilà, j'ai voulu pas apporter la réponse à l'adoption, puisqu'il y a autant de réponses que d'adoption, finalement. Voilà, ça a été mon premier roman, mais c'était vraiment, ça partait vraiment du très profond, des tripes, comme l'on dit. Voilà, et ça a été ce premier roman qui a mis un petit peu le pied à l'étrier. La suite est venue, puisqu'il a rencontré quand même, je reconnais, un certain succès.
Exactement. Et ce premier roman, il a lieu en 2014, c'est ça?
En 2014, exactement.
D'ailleurs, j'ai été regarder ce que ça voulait dire. J'ai été fouillé parce que j'ai trouvé soleil, j'ai trouvé la langue bantou. J'ai dit, parce que celui-là, je ne l'ai pas lu, moi. Parce que j'en ai lu quelques-uns, mais celui-là, c'est le départ. Puis si vous voulez connaître, vous n'avez qu'à l'acheter. Hein, et vous verrez comment ça se passe. Ça, c'était le premier. OK. Mais bon, je sais que c'était les viscères qui parlent, Robert.
Tout
c'est
à
vos
fait.
Viscères. C'est,
tout à fait.
C'est
l'émotion.
C'est l'émotion tout le temps. Ouais. C'est votre vécu ou le vécu de gens que tu connais? C'est ça, à la limite? Alors, de ce que tu parles.
Bien évidemment. De toute façon, quand on commence à écrire, souvent on est très présent dans les livres. Beaucoup d'auteurs et d'autrices sont présents et présentes dans leurs livres au début. Mais ça, c'est, on arrive petit à petit à prendre du recul par rapport à ça. Et j'ai réussi, c'est pas une réussite, mais au bout d'un moment, on n'est plus complètement présent dans les romans. Mais c'est exact, net, hein, dans mes premiers livres, ouais. Hein, je suis toujours présent et pratiquement dans tous, quand même, il y a la présence de Robert Millet apparaît, oui. Hein, bien évidemment. On ne peut pas, ça, je pense que c'est inévitable. Et c'est bien, d'ailleurs.
Ça, c'est sûr. D'ailleurs, on en parlera certainement sur le dernier, d'ailleurs.
Voilà.
Mais écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Petite pause musicale.
Et oui.
Et Montéo, qu'est-ce qu'on écoute?
Alors, je m'excuse déjà pour l'accent. On va écouter Contelto de Aranjuez de Joaquim voilà. Rodrigo.
Exactement.
Et on est parti. De suite, c'est l'heure de votre chronique Conte et raconte avec Annette.
Annette, de retour, toujours devant nos micros et toujours avec mon invité exceptionnel, monsieur Robert Millet.
Bonjour à nouveau, à toutes et à tous.
On est reparti, Robert. Alors, on avait fait le premier, deuxième. Allez, on oui, en alors. A 10 comme ça. Hein.
Oui, il y en a 10. Alors, je pourrais tenir très, très, très longtemps, mais je sais que le temps est compté dans cette chronique, donc je vais être rapide. Ensuite, oui, après, à Kasuba, donc j'ai voulu m'essayer aux nouvelles, un exercice qui est assez difficile, mais j'avais déjà écrit une ou deux nouvelles autour de la passion. Et je me suis attaché à en écrire 7-8 de plus pour faire un petit recueil de 11 nouvelles. Ouais. Autour de la passion, je fais vivre à mes personnages la passion jusqu'au bout. Mais bon, en latin, passion, c'est à la racine, c'est souffrir. Donc des fois, sur la passion, elle peut être difficile à vivre. J'étais content parce que dans ces nouvelles, une a reçu le premier prix de la nouvelle, donc de l'Amicale des écrivains régionaux de l'ADER. La nouvelle s'appelle « Sur le Mont Ventoux ». Ça a été une récompense qui m'a encouragé à continuer. Et là, après, je me suis essayé, après un livre jeunesse, puisque bien sûr, en tant qu'instituteur de formation, la lecture donc, auprès des enfants, des élèves, m'intéressait beaucoup. Donc j'ai écrit « Mes aventures en Provence », un livre qui est écrit en toute modestie, à la manière de Marcel Pagnol, le livre qui peut se lire de 7 à 107 ans, puisqu'il va parler de nos belles collines et une petite amourette aussi entre le garçon et la petite fille, donc les deux héros de ce livre. Et après, donc, les livres ont continué un petit peu comme ça. Un livre sur le déterminisme social, le poids des pères dans l'éducation, rien n'est écrit, un jeune maghrébin et une jeune bourgeoise.
Donc, je l'ai lu, celui-là.
Qui vont se retrouver libérés du poids du père, mais cette libération, finalement, n'en était pas une, puisque ça a été, au contraire, quelque chose de difficile à assumer, puisqu'il ne s'était pas construit, donc il va y avoir une descente un petit peu bien bas, mais toujours pareil, on tape au fond et puis on se redresse. Voilà, et puis ensuite, bien sûr, Kenza, une vie comme une vague, cette jeune Marocaine qui va vivre, lutter contre des traditions mal comprises. J'étais directeur de l'école française d'Essaouira, et cette petite Kenza, je l'ai eue dans ma classe. Et j'ai raconté un petit peu sa vie, mais j'ai forcé le trait un petit peu, bien évidemment, parce que heureusement pour elle, elle n'a pas vécu tout ce que je fais vivre à mon personnage dans le livre. Mais malheureusement, encore une fois, tout est vrai. Mais bon, toujours pareil, chaque fois je dis, je le rajoute, mes thématiques sont graves, souvent, dans mes livres, mais je ne veux pas que mes lectrices et mes lecteurs, quand ils ont fini de lire, aient envie de pleurer. On peut verser une larme d'émotion, mais être arrivé dans le mur, ça, non. Alors je laisse toujours l'espoir, j'ouvre des portes, comme je dis, la lumière au bout chaque fois quand même, l'espoir.
Ouais.
Même si les thématiques sont...
Et tu permets à ceux qui lisent tes bouquins d'en racheter d'autres d'ailleurs.
Oui,
d'en racheter d'autres.
C'est pas le but premier, mais bon, c'est vrai
si.
Que...
Si, si.
C'est vrai que s'ils sont vendus après tout, pourquoi pas.
Et ça marche. Et
oui,
ça...
Je reconnais que oui, je me plains pas.
Tu te plains pas. Moi, j'en ai lu trois que je suis allée chercher. D'ailleurs, je vais te poser la question parce que l'autre fois, je n'en ai pas parlé. Moi, tes bouquins, je suis allée les chercher à Intermarché parce qu'ils sont en vente là-bas. Et on peut les acheter où autrement?
Alors, on peut les acheter donc à Intermarché, certes, mais aussi donc à la librairie des Bulles et des Lignes de Pernay-Fontaine et à la presse de Saint-Didier aussi. Malheureusement, j'ai pas pu être accueilli à la librairie de l'Horloge, je le regrette. Mais bon, c'est comme ça.
Ouais,
on n'en a pas voulu de mes livres.
C'est vrai.
Et ouais, c'est dommage. Voilà.
Ils sont passés à côté de quelque chose.
Voilà, mais peut-être que ça me permet si le message peut être entendu.
Oui, exactement. C'est l'endroit où il faut le dire, là.
Voilà.
Je pense que c'est le moment ou jamais.
Je m'étais promis de le dire.
Bon. Et ben voilà, c'est fait. On arrive presque au 7e ou 8e, Lubaï.
Voilà, Lubaï le savait. Voilà un livre. Justement, je disais tout à l'heure que j'étais pas. Il y a des romans où je ne suis pas présent. Celui-ci en fait partie. Vraiment, c'est une fiction qui part toujours pareil, bien évidemment d'une émotion, mais je ne suis pas dans le livre là du tout. C'est une jeune fille qui est finalement un petit peu bipolaire, mais on la comprend parce qu'elle n'a jamais connu sa maman, qui est morte dans un accident de voiture, je le dis dans le prologue. Cette jeune fille va être plus, je dirais, élevée qu'éduquée par sa tante. Et pas de ceci jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, à 20 ans, elle a trouvé un travail, elle a un compagnon, et elle va découvrir qu'on lui a caché un lourd secret sur le passé de sa mère. Et ce secret... Eh bien, a des réponses, certes, mais ces réponses, elles sont à Barcelonnette. Et elles vont s'avérer au fur et à mesure que donc, mon héroïne va avancer dans cette vallée. eh bien, les réponses vont être de plus en plus douloureuses à entendre. Et finalement, c'est un livre qui ne devait pas être un roman suspense, en est devenu un, parce que j'ai lâché les indices que petit à petit, et sans le faire exprès, je me suis retrouvé à faire un roman un petit peu suspense. Comme je dis, vallée somptueuse, lubaille, mais qui peut s'avérer meurtrière aussi.
Tu peux me passer 30 secondes ton livre ? Alors, nos auditeurs ne vont pas pouvoir le voir, mais Théo va pouvoir s'en apercevoir. Tu vois le personnage qui est là ? Là.
Oui, je le vois là. Très bien.
Tu le vois très bien ? C'est Françoise ? C'est sa charmante
étendre. C'est la petite princesse.
Oui, sa petite reine.
La petite reine,
elle est là. Elle est là. Et d'ailleurs, quand je m'en suis aperçue, elle portait le même manteau. Elle s'est retournée, elle me dit... Tu vois rien ? Je dis, bah non. Elle me dit, mais regarde bien. Et elle avait le même manteau. Là, c'est sa petite reine qui est là. Elle est partout aussi, alors, Françoise.
Elle est en couverture d'aussi, de rien n'est écrit. Mais là, la pauvre, elle est là aussi. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas voir la couverture, mais elle est dans la rue des Teinturiers, assise.
Ah oui.
La tête dans les bras, au pied d'un muret. Elle est SDF.
Et c'est, oh.
Là aussi, la mise en scène a été surprenante quand les gens me voyaient en train de photographier cette dame qui était grimée, déguisée en SDF. Donc la pauvre Françoise aurait été vraie que je la suis.
Franchement, je serais passé, moi, avec le SAMU social, j'aurais été capable de lui donner voilà. Une petite soupe. Hein.
Tout à fait. Je tiens à faire mes couvertures, toutes mes couvertures. Donc ce sont mes photos. Pas uniquement pour une histoire de droit à l'image, mais parce qu'il me semble que si la couverture m'appartient. La photo, je l'ai faite. J'ai l'impression que le livre m'appartient un peu plus.
Voilà, c'est ça. Voilà. Il est carrément en toi.
Et voilà, il y a l'écrit et il y a aussi la couverture, l'enveloppe qui m'appartient.
Neuvième, c'est les animaux ont disparu.
Ah oui, alors celui-là, il est anecdotique. Je vais passer un peu plus rapidement, mais il a son importance. Puis quand même, c'est un livre... Qui est partie de ma petite fille, qui m'a dit un jour, ma petite Daphné a dit, « Papy, j'aimerais que tu écrives un livre sur mes copines, mon copain et moi. » Ça faisait 5. Tiens, c'est marrant. Ah oui, pourquoi pas ?
Le club des 5.
Alors, j'ai pensé au club des 5. Et quand je lui ai demandé quel thème elle aimerait que je traite, elle m'a dit, « Tu sais, nous, on aimerait sauver la planète. » Ça, c'est un bel objectif. Grand objectif, ça va être difficile, mais enfin, on peut toujours essayer. Alors, j'ai souhaité faire un conte écologique. Alors, je fais disparaître les animaux. Un matin, plus d'animaux, plus un insecte, plus un chien, plus un chat. Rien, plus une abeille, plus d'animaux, du tout. Et les enfants le disent aux adultes, attendez, bougez pas. Si les animaux ont disparu, peut-être que vous en portez une responsabilité. Et c'est même sûr, vous portez la responsabilité. Alors, laissez faire, nous, on va prendre nos petits sacs à dos et on va aller... à la recherche des animaux, on va les retrouver et on va comprendre pourquoi ils ont disparu. Voilà, petit conte écologique finalement, c'était anecdotique et puis finalement il est travaillé dans les écoles ce roman parce qu'il porte bien sûr beaucoup de belles valeurs écologiques.
Exactement, et là on arrive. Alors moi c'est le bouquin que j'aime parce qu'il y a en plus un travail historique qui a été fait, mais alors... d'enfer quand même, il faut le dire, Robert.
Bon, je reconnais qu'il m'a demandé, oui, beaucoup.
Il y a beaucoup de boulot quand même, mois, celui-là.
6 mois de recherche, de lecture, de tout ce qui touchait à cet homme, à Jean Jaurès.
À Jean Jaurès. Alors, tout à l'heure, Robert nous a dit, quand il a commencé, je suis né à Albi. C'est une incidence énorme quand même, Robert.
Une incidence énorme, puisque, en effet, comme j'ai dit, j'ai fait mes études à Albi et je me suis retrouvé en classe de terminale au lycée La Pérouse, dans la salle numéro 1, salle où Jean Jaurès a donné ses cours de philo de 1881 à 1883. Il y avait l'estrade où Jaurès avait posé ses pieds, il y avait le bureau où il avait posé ses mains, il y avait la plaque. Ici, Jean Jaurès a enseigné. L'ombre de Jaurès planait dans cette salle. Et je peux vous assurer que notre prof de philo, il n'a jamais eu de problème de discipline dans cette salle. On n'osait pas donc faire un petit peu les marioles, je dirais. C'était vraiment un grand moment. Et là, j'étais sûr qu'un jour, je parlerai de cet homme. J'avais 18 ans, j'en ai beaucoup plus. Et ce jour est arrivé. Alors je me suis transposé de Robert, je suis devenu Jules. Et je me suis transposé donc à 1881. Et je me suis retrouvé dans la même salle, dans cette salle. Mais cette fois-ci, j'avais Jaurès en face de moi qui donnait ce cours de philo. Voilà, c'est parti de là. Alors bien sûr, après ce livre, ce livre est un roman. Hein, je tiens à le dire.
Oui, mais c'est un roman. roman historique, on peut le dire. Hein, parce qu'il y a toutes les dates, il y a tous les trucs. C'est fait, mais c'est d'abord, c'est fait avec amour, c'est fait avec tes viscères, avec tes tripes, et on est emballé. Et c'est vrai. Moi, c'est Françoise, ta petite reine. Elle m'a dit, Annette, dans Jules, il y a du Robert. Mais dans Robert, il y a du Jules. Hein, ça, c'est sûr.
Bien sûr.
Ça, c'est sûr. Mais il est puissant, ce bouquin. Il est très puissant. Je suis rentrée dedans. Alors, je suis rentrée dedans, je l'avais acheté. Robert me l'a dédicacé. Je suis rentrée dedans un lundi. Et je crois que le mardi soir, c'était fini. J'ai dit à Robert, ça y est, je l'ai terminé. Paf. Il m'a dit, ah bon. Et j'y ai passé. On est dedans, on ne sort plus. On n'a pas envie de sortir. C'est vraiment puissant, c'est attirant. Et bravo Robert. Moi, franchement, tu as illuminé ma journée et ma nuit et mon matin et tout avec ce Jaurès quand même.
Merci. Ouais, non, c'est gentil. Bon, je ne voulais pas écrire le énième livre sur Jean Jaurès. Tout a été dit sur cet homme, et on écrit encore dessus, tant mieux. Mais moi, j'ai voulu trouver un angle différent et j'ai voulu mêler la grande histoire.
C'est ça.
Avec un grand H.
Avec un grand H.
Et la petite histoire. Un angle qui, finalement, je me suis aperçu, n'avait pas été traité. Jaurès n'avait pas été traité de cette manière jusqu'à présent. Ça me vaut d'ailleurs le plaisir d'aller donc dans le Tarn la semaine prochaine, dans 15 jours, pour le présenter au Salon du Livre de Pampelonne dans le Tarn, un beau salon, un grand salon du livre, où on va fêter la panthéonisation, le centenaire de la panthéonisation de Jean Jaurès.
De Jean Jaurès.
Il a été amené au Panthéon en 1924. Voilà, donc j'ai fait ce livre, donc non pas pour faire un roman historique,
mais
bien évidemment, donc Annette l'a dit, comme il a été fouillé au niveau
historique, vraiment fouillé.
Les lectrices et les lecteurs vont découvrir Jaurès aussi, peut-être sous un angle différent que ce qu'ils ont pu donc trouver dans les livres purement historiques.
Bon, là on a parlé un petit peu du passé, mais dis donc, enfin 2014, on est en 2024, il y a 10 romans. 10 romans ou nouvelles, hein, voilà hein, on peut dire ça. On va attaquer peut-être une autre bientôt, ami Robert.
C'est possible que ce nouveau roman, alors pas voit le jour en septembre, mais commence à être écrit en septembre.
Oui.
C'est possible. Voilà, je ne vous cacherai pas. On a parlé de Cyclotandem Vaucluse tout à l'heure, des déficients visuels. Et comme j'ai dit chaque fois, j'écris quand je ressens une émotion. Et là, c'est vrai qu'avec cette association, l'émotion est là. Et j'avais envie de la partager avec les lectrices et les lecteurs. Alors, je vais peut-être, même très certainement, me lancer dans l'écriture d'un roman autour de cette thématique. Oui.
Robert, combien pour accoucher, c'est qu'elle de le dire, d'un roman, pour accoucher, c'est des fois facile, c'est des fois difficile, ça met du temps, il y en a qui sont plus rapides que d'autres.
Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, tu as employé le mot accoucher, oui, c'est vrai que quand le livre se passe, on a besoin d'une recherche très 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 forte, 9 mois, oui, c'est vrai, c'est à peu près le temps qu'il faut pour écrire un livre, donc le terme est bien approprié, mais bon, bien évidemment, Jean Jaurès, ça m'a pris pratiquement 2 ans, hein, puisqu'il a fallu toute la partie recherche. Hein, puis ensuite la partie écriture, puis la partie réécriture, puis la partie relecture. Donc tout ça, ça fait Jean Jaurès 2 ans, peut-être pas, mais 1 an et demi, oui, 1 an et demi.
J'ai une dernière question avant de se quitter, malheureusement, parce que tout a une fin à un moment. La famille, Françoise, Guillaume, Julie, et tout le monde.
Et Daphné, la petite fille, oui, bien sûr.
Ils participent, ils lisent, ils regardent, ils disent ce qu'ils en pensent. Vous les faites lire, vous les faites partager.
Ah, tout à fait, bien évidemment. Françoise est la première lectrice, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que j'écris au départ avec un bloc, un crayon et une gomme. Mais souvent, l'émotion est tellement forte que la gomme, je ne m'en sers pas. Et j'écris au crayon sur ce bloc. C'est décousu, c'est plein d'incohérences, peut-être pas, mais d'erreurs, etc. C'est pas grave. Quand j'ai fini, Françoise recopie ce que j'ai tapé, mais tel quel, parce que l'émotion est là, parce qu'à l'ordinateur, je n'arriverai pas à la transmettre, puisque je vais tout de suite corriger, corriger, rechercher un mot. Donc là, il faut que ça sorte. Donc c'est vrai que Françoise est la première correctrice, lectrice, et ensuite mes enfants, bien évidemment, le sont. et ma belle-fille en particulier, qui a fait les illustrations dans Les animaux ont disparu.
Et c'est bien parce que moi aussi, quand j'écris mes chroniques ou instituts avant de les recopier, je les fais au crayon. Et c'est comme ça. Le crayon, c'est important dans la vie. C'est ce que j'ai dans mon sac à main avec un tel crayon d'ailleurs.
Oui, on a une approche, je trouve une approche plus directe.
Plus directe, exactement.
Plus spontanée.
Oh Robert, on est obligé de se quitter. Ah, on l'aurait bien gardé toute l'après-midi. Mais il y a un moment. Bon, Annette, quand tu racontes, j'espère que de mon romancier préféré, Robert Millet, vous a plu. Peut-être qu'on en refera une, on ne sait pas. Mais pour l'instant, elle est exceptionnelle. Je la garde à ce qu'elle reste exceptionnelle. Je te remercie, Robert. Et merci, Théo.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci,
merci Théo. Merci, Annette. Et merci à notre jeune stagiaire aussi qui a assisté à cette chronique.
C'était la chronique Conte et raconte avec Annette.